La grande question est, sera-t-il possible à long terme de permettre à tous les aînés du Québec de vieillir dans leur communauté? Et cette réflexion-là arrive, bien sûr, d'une réalité qui concerne la viabilité de certaines résidences pour aînés et, à plus grande échelle, la vitalité des villes et des villages où elles sont situées. Oui. Je veux dire, quand on vient dans le Bas-Saint-Laurent, particulièrement dans une région comme Rimouski, comme Rivière-du-Loup, je pense que ça fait partie de notre actualité, à savoir que les petites résidences en arrachent véritablement.
Oui, tout à fait, parce que si on regarde dans l'ensemble du Québec, dans les 5 dernières années, on a quand même 450 fermetures de résidences. Et pour le Bas-Saint-Laurent, on a 34 fermetures dans les 5 dernières années. Ouais. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant.
Et est-ce qu'on attribue ça? Parce que si on fait un lien très direct, là, si on demande là aux gens de la rue qui suivent moindrement l'actualité, à quoi est-ce que vous attribuez ça? On peut faire un lien avec l'incendie de la résidence du Havre de l'Île Verte qui a amené sur le plan de la sécurité là des correctifs importants, mais s'associant également à certains coûts que le gouvernement ne supporte pas dans son ensemble, ou encore qu'on demande aux résidences de financer d'abord et se faire rembourser après. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les fermetures et ce qu'on a demandé de plus aux propriétaires de résidences privées pour se mettre aux normes, appelons ça comme ça?
Oui, tout à fait. Il y a un lien direct. Je vous dirais qu'il n'y a pas un propriétaire de résidence qui est contre la sécurité de ses résidents. Donc, c'est sûr que la mise aux normes des bâtiments, elle est exigeante. Les gens veulent s'y conformer, mais effectivement, ça prend des moyens. Il y a une subvention qui est quand même intéressante, de 138 millions, pour pouvoir gicler les bâtiments. Mais c'est le processus qui est difficile. Donc, les gens ont une confirmation du financement par le gouvernement, mais n'ont pas accès par les institutions financières à ce financement-là. Donc, c'est très difficile. Et le remboursement par le gouvernement se fait dans les 5 années qui suivent la fin des travaux.
Oui.
Donc, pour une petite résidence, ça devient extrêmement difficile d'assumer ce poids-là financièrement. Et dans la mise aux normes des bâtiments, il y a eu d'autres normes aussi. On parle des systèmes d'alarme, on parle des parois coupe-feu et tout ça. Donc oui, c'est une lourdeur pour de la réglementation. Là, c'est un poids plus lourd pour les résidents.
Oui. Madame Saint-Onge, quand on écoute la nouvelle ministre Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, on a l'impression qu'elle prend la cause très, très au sérieux. Puis quand je dis la cause, c'est la cause des aînés.
Des aînés, oui.
Naturellement, la politique étant ce qu'elle est, on peut avoir ou afficher une très bonne volonté si les moyens suivent pas. Puis les moyens, c'est pas rien que la politique, c'est l'argent qui vient avec. Si l'argent suit pas, on n'avance pas vite et à la limite, on n'avance pas du tout. Quelle est votre perception par rapport au discours de Mme Blais actuellement?
Nous, au Regroupement québécois des résidences pour aînés, avons eu la chance de rencontrer Mme Blais à quelques reprises depuis son élection. Je vous dirais qu'on a une très bonne écoute de son cabinet, de son ministère aussi, par rapport à différents points qu'on lui a soumis, entre autres les gicleurs. Et je vous dirais qu'on a bon espoir que les dossiers puissent avancer. Donc là, oui, on a entendu on s'entend que Mme Blais, elle l'a mentionné. Maintenant, on attend les actions qui vont suivre de ce côté-là. Nous, on est prêts à travailler main dans la main avec le gouvernement pour pouvoir éviter les fermetures de votre résidence.
Peut-être que quelqu'un qui nous écoute ce matin puis qui a 35 ans, 40 ans, peut-être même 50 ans, réalise pas l'importance pour les personnes âgées de pouvoir, lorsqu'elles partent de chez elles, là, de leur appartement ou de leur maison, l'importance de pouvoir demeurer dans la communauté. Puis demeurer dans la communauté, c'est pas rien d'être dans la même ville ou le même village où on a vécu, c'est pouvoir côtoyer aussi des gens qu'on a connus alors qu'on était plus jeune et plus actif. Donc le tissu social, c'est pas rien qu'une affaire de bâtisse, c'est une affaire de vie finalement.
Oui, vous le nommez très, très bien. C'est effectivement pas juste une bâtisse. Ces gens-là, c'est un drame pour eux quand on les déracine. Et c'est important que les aînés puissent avoir le droit de vivre dans leur communauté. Comme vous dites, c'est le tissu social, c'est les liens, c'est le réseau. Donc, c'est vraiment très, très, très important.
Ouais. Mais j'insiste là-dessus, Mme Saint-Onge. Est-ce que, quelque part, est-ce que lorsqu'on parle de ça, de l'importance des gens de résider chez eux, dans leur communauté, j'ai l'impression qu'on présente ça un peu froidement, un peu théoriquement, et que le seul lien qu'on est appelé à faire habituellement, c'est de dire, ben, je sais pas, je prends un exemple, une personne qui a vécu toute sa vie à l'île verte devrait pouvoir aller en résidence à l'île verte. Comme si le simple lien de cause à effet était de dire, elle vient de là, faut qu'elle reste là. Alors qu'en réalité, c'est que si tu prenais, puis là, je vais faire un exemple, une figure avec ça, si tu prenais 25 ou 30 personnes qui se sont côtoyées dans leur jeunesse, puis que tu les transfères dans le même établissement à Rivière-du-Loup, au lieu que ce soit à l'île verte, peut-être que ces 15-20 personnes-là seraient quand même très heureuses parce qu'elles se connaissent toutes. En réalité, c'est de continuer à vivre dans ton milieu bien plus pour être capable de continuer à côtoyer des gens que tu connais, bien plus que pour y rester, dans le fond.
Mais il y a cet aspect-là dont vous nommez, puis peut-être que ces 25-là dans une autre résidence pourraient être heureux aussi. Mais en fait, il y a aussi tous les repères de cette personne-là dans sa communauté, donc c'est vraiment important, là.
Mais je continue de penser, Mme Saint-Onge, puis je dis pas que c'est de votre faute, là. Mais il y a certains aspects de la vie dans sa communauté lorsqu'on devient âgé et lorsqu'on entre en résidence qui ne sont pas suffisamment valorisés. Tant qu'à moi, parce que on te met dans une bâtisse dans ta communauté, mais avec 60 personnes que tu connais pas, à mon avis, t'es pas plus avancé, là.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, ce n'est pas traité froidement. On le traite vraiment aussi dans l'aspect humain et ce que ça crée dans la communauté quand il y a une résidence qui ferme. Il y a un drame pour l'aîné, il y a un drame pour le propriétaire de résidence aussi qui souvent a mis toute sa vie là-dedans.
Oui.
Et pour la communauté aussi qui perd cette résidence-là, qui souvent sont, je vous dirais, même des joyaux des petites municipalités, des petits villages. Donc, ça crée un drame pour plusieurs personnes. Ouais.
De quelle manière, Mme Saint-Onge, puis je vous pose la question, puis franchement, je connais vraiment pas la réponse. De quelle manière le gouvernement est-il impliqué dans le financement des résidences privées? Et quand je dis dans le financement, là, c'est dans le quotidien là, des résidences privées. Est-ce qu'une résidence privée est une résidence qui ne bénéficie d'aucune subvention gouvernementale à quelque égard que ce soit, sauf, par exemple, dans le cas des gicleurs, si on a le moyen de s'y conformer, là?
Exactement. Le revenu des résidences privées pour aînés, en fait, provient du loyer. Donc, du coût du loyer l'aîné va payer.
Oui.
Donc, les résidences ne bénéficient pas de subventions pour pouvoir traiter les opérations courantes. Vous l'avez dit, pour les gicleurs, c'est autre chose, c'est un programme, mais pour les opérations courantes, ce n'est que le loyer. Et le gouvernement, comment il peut contribuer? C'est dans, je vous dirais, la bonification du crédit d'impôt qui est attribué à l'aîné. Mais pour ça, il faut qu'il soit, je vous dirais, déployé de façon différente. Donc, je vous dirais plus défini à partir du besoin de l'aîné. Donc, l'aîné est rendu où dans son autonomie? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a besoin comme service?
Et
quel est son revenu aussi? Parce qu'il y a des aînés qui ont vraiment un faible revenu et devraient avoir davantage de crédits d'impôt pour pouvoir subvenir.
Donc, tout ça, Mme Saint-Onge, peu importe, et là, c'est de la manière que je le vois, là, peu importe sous quel angle on regarde le dossier, c'est un dossier qui ne pourra pas se régler autrement qu'en injectant encore plus d'argent qu'on en injecte à l'heure actuelle, quitte à subventionner certains types de résidences pour personnes âgées afin qu'elles demeurent en opération dans leur communauté quand leur santé est un peu plus fragile?
Bien, je vous dirais de subventionner les services pour les aînés. Donc, de vraiment voir le besoin des aînés. Et c'est là que les propriétaires de résidences en ont besoin.
Oui. Mme Saint-Onge, merci.
Et ça me fait un grand plaisir.
Bonne journée.